Bonsoir à tous dans l'actualité ce soir.
La revue de presse de Natacha Polony avant de retrouver...
Reportage, on se retrouve après.
On commence cette revue de presse par un cri d'alarme en une de Libération.
Mais oui, bas les pattes. C'est le titre d'une tribune signée par 40 femmes journalistes politiques. Elles dénoncent un phénomène qu'on a trop vite tendance à oublier, le bon vieux sexisme du monde politique. Car non, l'affaire DSK n'a pas mis un terme à tout ça. Alors Libé publie une tribune qui a beaucoup fait parler, et on vous en parlera encore tout à l'heure, sûrement parce que les propos déplacés qui sont retranscrits ne sont vraiment, mais alors vraiment pas piqués des hannetons. Entre le député qui passe sa main dans les cheveux d'une journaliste, ou le ministre qui demande à des femmes journalistes si elles rêvent de lui la nuit, on a le droit à un très beau festival.
Et pendant ce temps-là, les hommes politiques aussi rêvent la nuit, non ?
Oui, mais alors des rêves plus ambitieux. Les politiques sondent dans tous les sens dans la presse. Ils prospectent et avancent leurs pions en vue des élections à venir. Ces Valls sont une du Parisien aujourd'hui en France. Et si Valls y allait, avec un splendide sondage à l'appui, montrant qu'il ferait à peine 2 points de plus que Hollande au premier tour en 2017. Mais bon, Juppé que Marianne décrit droit dans ses chaussons. Et puis Hollande qui prépare sa reconquête pour 2017. Le Monde le montre très confiant, persuadé que le chômage va baisser, qu'il va pouvoir en profiter. L'optimisme, une affaire d'homme sans doute.
La vie politique ces jours-ci, c'est aussi des déchirures shakespeariennes, comme on les aime.
Mais oui, il n'y a pas que dans Libé qu'on combat le patriarcat. Marine Le Pen fait ça aussi très bien. Alors la presse revient longuement sur l'éviction de Jean-Marie Le Pen. Et elle raffole évidemment de ce nouvel épisode de « Pourquoi j'ai mangé mon père ?». Bon, alors au-delà de l'aspect feuilletonesque, ça n'a pas grand intérêt, parce qu'aucun des quotidiens qui consacrent une pleine page à l'affaire ne parle du fond, c'est-à-dire des dissensions idéologiques entre père et fille. Alors pour l'analyse, on passera.
Pendant ce temps, le fleuron de notre industrie s'exporte à l'étranger.
Mais oui, les fameux rafales. Souvenez-vous, Céline vous en parlait au précédent numéro. Alors rendez-vous compte, pas moins de 24 rafales vendues au Qatar par François Hollande. Et qu'importe si, comme le rapportent les Échos, tout cela ne s'est pas fait sans contrepartie commerciale quelque peu douteuse. Bon, mais alors, qu'est-ce qu'on pense de la vente des avions de Dassault dans le Figaro, le quotidien du groupe Dassault ? Étonnamment, beaucoup de bien. Le journal pour lequel, sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur, il va un peu fort sur l'éloge flatteur. Pardon, le pari rafale est gagné, explique-t-il, en reprenant mot pour mot la communication de Hollande. Ce qui... Il faut le bien dire, c'est pas dans ses habitudes. Hein. Alors certes, les pays du Golfe, dont Hollande se rapproche, ne sont peut-être pas hyper fréquentables. Mais comme le note Georges Malbruno, malgré une situation des droits de l'homme qui laisse parfois à désirer, ces monarchies apparaissent comme les seuls pôles de stabilité dans le monde arabe. Et c'est vrai que 5 personnes décapitées en Arabie Saoudite le jour même de la venue de Hollande, ça laisse quelque peu à désirer.
Et dans la presse, on en revient encore aux femmes.
Oui, c'est un reportage du Monde diplomatique de ce mois-ci. Sur les grossesses, des milliers de Philippines ou d'Indonésiennes qui travaillent à Hong Kong comme domestiques. Si elles tombent enceintes, beaucoup d'employeurs habiles résilient immédiatement et illégalement leur contrat de travail. Et même si c'est illégal, ça a pour effet d'annuler automatiquement leur visa et donc de les condamner soit à l'expulsion, pour celles qui refusent et se cachent, soit à une vie marginale dans les limbes de la mégapole. Le patriarcat n'est décidément pas mort.
Les femmes, encore et toujours, cette fois sous un angle un petit peu plus léger.
Oui, c'est Marianne qui ose poser la question dans ses pages tendances. Pourquoi les Françaises sont mal coiffées ?
Merci.
Mais si. Vous savez, c'est le fameux coiffé décoiffé de tous les magazines féminins.
Vous vous sentez visée ?
Oui, un petit peu. Moi, je me coiffe pas, moi.
Moi non plus.
Ben voilà. C'est bon. Exactement ça.
Marianne a donc raison.
Et l'article vaut vraiment la lecture. En fait, il montre que ce ne sont pas tant toutes les Françaises qui privilégient ce style que les Françaises qui ont du temps et des moyens consacrés au perfectionnement d'un style désinvolte. Bah oui, parce que ça demande de l'énergie et de l'entretien. Alors autrement dit, c'est réservé à une bourgeoisie dans laquelle la journaliste voit un mépris aristocratique de l'effort. L'effort et le labeur, c'est pour la masse, pas pour l'élite du style. Et on peut mettre ça en parallèle avec le très intéressant article que le mensuel branché Néon consacre à ces jeunes qui essaient de percer dans le mannequinat. Beaucoup viennent de milieux modestes et s'endettent jusqu'au cou pour se constituer une garde-robe et un bouc, sans que leurs efforts à eux paient toujours.
Pour finir, une astuce de séduction ?
Mais oui, alors spéciale dédicace à Clément, et ça vient également du magazine Néon. Il nous apprend qu'une étude menée à l'université de Bristol a montré qu'on est plus séduisant après avoir bu un verre de vin. Parce que ça dilate les pupilles et que ça fait rosir le teint. Mais attention, dès le deuxième verre de vin, on devient moins séduisant que si on avait été sobre.
Ah, bon.
Alors séduisons.
Je retiendrai la formation.
Voilà. Alors séduisons, surtout qu'il n'y a rien de tel que la séduction pour se décoiffer sans effort.
Presse de Natacha Polony avant de retrouver...
Reportage, on se retrouve après.
On va maintenant revenir sur quelque chose d'un peu moins drôle. Parce que dans la presse un petit peu alternative, il y a quelque chose qui a beaucoup, beaucoup mobilisé ces dernières semaines. Mediapart a même organisé le 4 avril une espèce de marathon, 6 heures contre la surveillance. Parce que l'ombre du 11 janvier plane toujours sur la politique française. À peine 2 mois après les attentats contre Charlie Hebdo, le gouvernement présente un projet de loi qui inquiète énormément, un projet de loi sur le renseignement. Une nouvelle loi où il s'agit de définir, dans la loi, les principes et les finalités de politique publique de renseignement, prérogatives de l'État, faut-il le rappeler, pour reconnaître sa contribution à la sécurité nationale et à la défense des intérêts fondamentaux de la nation. Et alors le meilleur est à venir, il reste surtout à encadrer l'utilisation des techniques de recueil des renseignements pour renforcer la protection des libertés individuelles, tout en sécurisant l'action des services spécialisés. Donc un grand écart dans cette phrase qui est un petit peu verbeuse, il faut bien le dire. Et le gouvernement a choisi de faire examiner ce projet selon une procédure accélérée pour le voter le 5 mai dernier. Et alors ce projet sur le renseignement, rapidement, on l'a vu dans la presse, il inquiète. On parle de surveillance de masse et de nombreux médias partent en guerre contre ce texte.
Le gouvernement prend tout le monde de court en fait.
Oui, c'est ça. Le gouvernement a rapidement tenté de mettre fin aux critiques. Il a saisi au moment de la présentation du projet la Commission nationale consultative des droits de l'homme afin qu'elle rende un avis sur la loi. Et le 19 avril, François Hollande a annoncé qu'il saisirait le Conseil constitutionnel une fois la loi votée. Le président qui saisit le Conseil pour une loi qu'il a lui-même présentée. C'est quand même assez fort. Et ce qui est original ici, c'est que contrairement aux derniers mois où la majorité socialiste se déchirait sur la loi des finances ou sur le pacte de compétitivité, eh bien il règne autour de cette loi un certain unanimisme, gauche et droite, 486 voix à l'Assemblée nationale qui ont voté pour. Si quelques députés crient au loup, le parcours législatif de la loi n'a jamais vraiment été menacé. Début avril, le projet est passé sans problème par la commission des lois de l'Assemblée nationale et il en est même sorti renforcé, puisque sous la houlette de Jean-Jacques Courvoas, monsieur sécurité au PS et rapporteur du projet, eh bien la loi a durci un certain nombre de dispositions. Et par contre, si l'Assemblée ne fait rien, c'est la société civile qui s'est mobilisée, d'où la saisine du Conseil constitutionnel par François Hollande pour désarmer les critiques. Alors en vrac, dans les opposants, on trouve Amnesty International, Reporters sans frontières, le syndicat de la magistrature, la Ligue des droits de l'homme, mais aussi des sites internet comme la Quadrature du Net ou des acteurs du numérique.
Et dans le projet, concrètement, qu'est-ce qui soulève autant de résistance ?
Alors ce sont d'abord des formulations très larges. La surveillance se retrouve justifiée pour des motifs comme la prévention contre le terrorisme ou la prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions ou encore les intérêts majeurs de la politique étrangère. Tel un bon cagneux face à dissertation, on peut faire rentrer n'importe quoi dans de tels intitulés, ce qui inquiète considérablement. Et dans les procédés mis en place de surveillance, c'est encore pire. Avant de pouvoir collecter des données, les renseignements devront passer par une commission composée de députés, de sénateurs, de juristes et de conseillers d'État. Pour autant, des situations d'urgence sont prévues dans la loi, pour lesquelles les renseignements pourront tout simplement se passer de l'avis de cette commission. Et ce qui est le plus critiqué, c'est une disposition de surveillance sur Internet. Il s'agirait de contraindre les fournisseurs d'accès à détecter une menace terroriste sur la base d'un traitement automatisé. Concrètement, avec un algorithme, il s'agirait de détecter les gens ayant des comportements à risque terroriste. Dis-moi sur quel site tu vas, je te dirai si tu feras un attentat.
D'abord, le président de la République a dit qu'il saisirait le Conseil constitutionnel. Et puis, c'est le travail des parlementaires d'évaluer une loi. Une fois qu'elle sera votée, c'est aussi le travail des élus de la République de regarder comment elle se met en place et de prendre en compte les remarques pour, le cas échéant, corriger cette loi.
Alors, on vient d'entendre Claude Barthelone qui nous disait que c'était le travail des députés de travailler sur des lois. Et ce vote des députés, il a été scruté avec des initiatives pour tenter de les faire changer d'avis ou de les faire voter contre la loi. C'est le cas de la plateforme Tank, qui a réuni à Paris des militants et bénévoles contre le projet de loi à l'appel d'Amnesty International ou de la Quadrature du Net. Et pendant un mois, ces militants et bénévoles ont sans relâche appelé les parlementaires pour sonder leur position et tenter de les faire changer d'avis ou de convaincre les indécis de voter contre. Et s'il est difficile d'avoir les députés ou sénateurs directement au téléphone, tous notent que l'acharnement a fini par payer, puisqu'on peut réussir à leur parler. Et si cela n'a malheureusement pas changé le cours du vote, c'est peut-être rafraîchissant et rassurant à entendre. Des citoyens peuvent encore avoir leurs députés au téléphone pour essayer de le faire changer d'avis, mais pour combien de temps encore ?